L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Crénios, un poète bedonnant, un peu chauve, et si intéressé par les femmes qu'il en fait des tonnes. Les calembours fusent, les jeux de mots fleurissent et la poésie, elle va bien, merci. C'est amusant, intelligent, potache et finalement très sentimental. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de Crénios, un livre paru aux éditions Ubicart en juillet dans la collection Les carnets virtuels écriture. Son auteur est avec nous aujourd'hui dans Aéropage sur Radio FM+. Bonjour François Millet.
Bonjour Nathalie, merci de me recevoir.
Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Je suis ravie de vous retrouver puisque je dirais que vous êtes un fidèle, François. C'est la troisième fois que vous venez dans nos studios. D'abord en 2018, j'étais toute jeune dans les murs de ce studio qui n'était pas cela d'ailleurs. Quand Guylaine Dubois vous avait interviewé pour l'aventure Tapuscrit. Et je crois pour le premier anniversaire de mémoire. C'était le premier anniversaire, oui, de la librairie. Et puis une rencontre croisée qui se doublait de l'expérience librairie Tapuscrit dont on va parler avec Sonia Song en 2019. Et puis l'année dernière, j'ai eu le plaisir de vous recevoir pour Le Libraire. Aujourd'hui, c'est donc votre dernier opus, Crénios, un titre bien mystérieux. François, on va d'abord parler un peu de vous, parce que bon, tout le monde ne se rappelle plus des émissions précédentes. Et je vais reprendre les mots de votre ami Marc Elie, qui est aussi un peu notre ami. François Millet n'est vraiment pas quelqu'un de très sérieux. Lucide, il dit de lui-même « Je crois que je suis tombé définitivement du côté obscur de la farce ». Sur Babelio, où vous avez une entrée, vous êtes décrit comme agnostique, anarchiste, désabusé et franc-maçon. Ça fait un peu bizarre, anarchiste, désabusé, franc-maçon, mais vous allez peut-être nous expliquer. Et vous considérez la vie comme une farce. Donc cette idée de farce, quand on entre votre nom sur Internet, on la retrouve tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par « la vie est une farce » ?
Je préfère la considérer comme une farce, parce que, à titre personnel, si je devais la considérer sérieusement, je pense qu'on pourrait se tirer une balle dans la tête, tout simplement. Donc c'est une façon de se détacher du monde qui est complètement fou, hein, ce monde dans lequel on vit. Et voilà, c'est de l'humour noir.
Parce que vous vous sentez impuissant, enfin je sais que on en avait parlé lors d'une émission précédente, à un moment vous aviez fait un clin d'œil en vous présentant à l'élection présidentielle, si je me souviens bien, c'était ça ?
Oui, mais c'était une boutade.
Une boutade. Non, mais est-ce que, enfin c'était il y a une dizaine d'années en tout cas, c'était un petit bout de temps, est-ce que vous sentez aujourd'hui, est-ce qu'on est impuissant justement et que c'est ça qui fait qu'on ne peut prendre les choses que comme une farce, sinon on ne survit pas ?
J'ai l'impression, oui, d'être, enfin à titre personnel, d'être impuissant, même si on peut avoir des raisons d'espérer, mais j'ai l'impression qu'on est complètement enfermé dans un système et qu'il est très difficile, quand je dis système, c'est système de société, hein, et qui me paraît compliqué d'en sortir.
On en parlera quand on va parler de la librairie Tapuscrit, parce qu'on a partagé un peu cette histoire ensemble, François. J'étais très proche de vous à ce moment-là, à la librairie. C'est une dernière désillusion de cette librairie, on pourrait dire, ou pas ? Ou là, vous avez senti justement le poids d'un système ?
Alors oui. Ce qui me déçoit, en fait, aujourd'hui, mais pour parler de la culture en général, c'est qu'elle est financièrement accaparée par le système. Et quand on est en dehors de ce système, quand on veut être en dehors de ce système, non seulement on ne vous aide pas, mais on vous met la tête sous l'eau.
C'est une expérience... vous partagez aussi un petit peu en ce moment... Alors, je ne voudrais pas trop en parler, parce que je le suis de loin, mais je n'en fais pas partie, d'un mouvement qui naît, qui essaye de naître et de grandir, pour qu'il y ait une espèce de salon off par rapport à la comédie. C'est quelque chose que, par exemple, dans une ville où le livre, c'est la comédie du livre, c'est vrai que c'est difficile d'émerger comme autre... c'est même pas puissance, parce qu'on peut même parler de puissance, mais comme autre existence.
Oui, c'est une idée qui me plaît bien, faire une comédie off du livre. qui réunirait tous les acteurs du livre, quels qu'ils soient, hein, les auteurs, mais tous les métiers du livre, hein, les artisans du livre, les fabricants de papier, les imprimeurs, les correcteurs, les illustrateurs ou illustratrices.
Des gens qui sont un peu éloignés, mais c'est pas eux qui s'éloignent, hein, c'est que les portes ouvertes du système
oui.
a du mal justement à ouvrir les portes.
Et tous ces auteurs qui font de l'auto-édition ou les petites maisons d'édition. Moi, je repense toujours à Avignon, hein, avec le in et le off.
Bien
hein,
sûr.
Et les deux se nourrissent l'un et l'autre. Et il n'y a pas de concurrence. Hein, les deux sont complémentaires. Et moi, je verrais bien quelque chose comme ça à Montpellier. Mmh. Oui.
C'est vrai qu'il y a les grands prestiges et plein de choses qui ne sont pas moins prestigieux, mais qui sont différents.
Oui, tout à fait, c'est différent. Mmh. Et la qualité est présente. Mmh. Il ne faut pas croire.
Vous
contrairement
pensez...
à ce que peuvent dire les tenants du système, hein, hein, qui vilipendent l'auto-édition hein, et les petites maisons d'édition qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Oui, non, mais c'est un combat qu'on partage depuis 5 ans. Hein, je veux dire, c'est vrai que moi, souvent ici, je reçois des gens qui presque s'excusent. Par contre, François, c'est vrai que de plus en plus, je reçois des gens qui rentrent dans l'auto-édition par choix.
Oui, c'est... C'est dans l'air du temps, on va dire, hein, de ne plus vouloir participer à ce système. Et moi, je trouve que c'est très bien. Mm-hmm. Alors, c'est d'autant plus facile aujourd'hui que l'édition numérique est arrivée. Donc, c'est encore plus facile pour les auteurs de faire ce parcours, même si ça reste compliqué.
On va parler vite fait de votre enfance. Donc, vous êtes né dans les années 60. Hein, vous avez vécu jusqu'à 18 ans sur d'autres rives de la Méditerranée. Est-ce que vous vous sentez un homme du Sud ou est-ce que vous sentez un homme de là où vous êtes bien ?
Oui, c'est une définition qui me plaît bien. Je suis bien là où je suis. Oui, c'est une bonne idée. Après, ce sont les hasards de la vie qui m'ont amené à Montpellier. Depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai passé aussi une petite partie de ma vie, 5-6 ans en Bretagne. Et si j'avais un coup de cœur, ce serait peut-être quand même pour la Bretagne aujourd'hui.
Ben on a ça quand même, je vous dis toujours que si je vais en Bretagne, je ne reviens jamais ici. En plus, j'aime la culture bretonne, et pas seulement les crêpes et chouchènes, mais aussi les fest-noz et tout ça. Voilà, c'est vrai que j'aime bien la culture bretonne. Vous étiez un enfant unique, si je me rappelle bien. Évidemment, vous avez été éditeur, libraire. Vous aviez cet amour des livres petits ?
Oui, j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Parce que en dehors de France, on n'avait pas la télé ou la radio française, enfin si la radio un petit peu. Donc restait le livre et avec une passion à l'époque pour la science-fiction, pour les nouvelles un peu fantastiques. Et puis d'autant plus facile que pour moi que ma maman travaillait dans un centre culturel français et plus particulièrement dans la bibliothèque.
Donc ça a aidé un peu.
Il y avait cet amour du livre à la maison, voilà.
Ça a aidé un peu. C'est vrai que dans l'amour que les gens ont du livre, il y a des fois aussi l'accès qui n'est pas toujours évident. Hein,
oui.
Toutes les familles n'ont pas des bibliothèques. C'est pas, voilà. Après, vous avez travaillé 9 ans comme formateur bureautique et informatique pendant 13 ans sur le web. C'était juste avant donc, l'aventure éditoriale. C'est quand même une passion pour vous l'informatique. Ce n'est pas seulement alimentaire, vous aimez ça.
Oui, ça reste une passion encore aujourd'hui. Là, je me suis remis à l'informatique depuis que j'ai arrêté Tapuscrit. Et j'ose dire que c'est une forme d'écriture créative aussi, hein, lorsqu'on fait de la programmation.
C'est quoi, vous faites des sites si par exemple, profitez-en, hein, l'antenne est libre. Si on vient vous voir en disant je voudrais créer mon site, c'est quelque chose que vous pouvez faire ?
Alors, sur le principe, oui, mais non, aujourd'hui, je ne vais plus m'embêter avec ce genre de choses. Voilà. Je suis sur un autre projet en open source aujourd'hui.
Après, c'est vrai que remettre la main dessus, c'est aussi se remettre en auto-entreprise, c'est aussi se remettre dans des logiques entrepreneuriales, hein, que des fois on...
Je ne veux plus participer
à
ce système.
Je comprends bien, je comprends bien. Reste qu'aujourd'hui, ce qui est important, enfin, ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui, c'est le livre. Et donc, vous créez les éditions Tapuscrit en 2014. Pourquoi cette envie donc, de changer quand même de vie, puisque là, vous devenez éditeur? Avec l'idée au début de ne vivre que de ça, de mettre l'informatique sur le côté. C'était quoi l'envie viscérale de devenir éditeur ?
Alors, c'est, en fait, c'est à la fois un concours de circonstances, c'est-à-dire la rencontre autour de moi de personnes qui écrivaient. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens écrivent. C'est vraiment impressionnant. J'avais les capacités, on va dire, techniques de créer des livres, puisque j'avais les compétences. Et puis, j'avais ce vieux projet d'aller vers le papier. Parce que quand on travaille depuis 9 ans comme formateur et puis 14 ans dans le numérique, sur l'Internet, on est vraiment dans le monde qui est immatériel. Et j'avais envie de passer vers le matériel. Et pour moi, le livre, ça avait été quelque chose de logique dans mon parcours.
Parce qu'en plus, vous devenez éditeur avec tous les risques d'éditeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les connaît, hein, les Baudelaire et autres maisons d'édition qui vous demandent très cher pour faire une mauvaise correction, une mauvaise mise en page et une mauvaise diffusion. Non, là, vous devenez éditeur en prenant tous les risques éditoriaux.
Alors, oui, et puis en plus en exploitant une niche dans une niche. Hein, c'est-à-dire que c'était au départ pour publier surtout du haïku, qui est un sous-genre de la poésie. Alors déjà, la poésie, c'est moins de 1% du marché du livre, alors le haïku, c'est pire. Mmh. Hein, donc c'était quelque chose, c'était une passion, avant tout.
Mmh. Sachant que vous n'en vivriez pas tout de suite, vous
saviez. Je savais que ce serait vraiment très compliqué d'en vivre. C'était pas le but.
Et qu'est-ce qui fait ? Donc nous, on se rencontre en 2018. Je vous connais depuis juin 2018. La librairie Tapuscrit était déjà ouverte. De mémoire, ça a dû être octobre 2017, dans ces eaux-là. À l'automne 2017, puisqu'on a fêté les 1 an ensemble en 2018.
Si vous le dites.
Ouais, moi, je m'en souviens bien. C'est des dates importantes pour moi, c'est vrai. Et pourquoi donc continuer l'aventure éditoriale par une aventure de librairie, alors que là, il y avait d'autres charges qui allaient tomber. C'est-à-dire que je me rappelle les discussions qu'on a eues. Bon, tant que vous étiez éditeur, ça allait à peu près. Et puis là, il y avait quand même le loyer, l'électricité, les charges qui étaient quand même conséquentes. Donc là, il y avait encore plus une exigence de rentabilité. Vous aviez déjà un certain âge en vous lançant dans cette aventure-là. Vous saviez ce que vous alliez vivre, ça ne vous faisait pas peur ? Et pourquoi l'avoir fait justement ce choix ?
Alors, je l'ai fait parce que je ne me suis pas posé la question.
Toutes les questions que je vous pose là, vous ne l'êtes pas posées ?
Non.
C'est bien ?
Non.
C'est
non.
Bien.
Non. J'ai voulu vraiment aller au fond de ma folie, sans me poser de questions. Voilà, tout simplement. Il fallait que je le fasse. C'était viscéral.
Parce que c'était pas seulement libre. Bon, il y avait 3 pièces, pour expliquer aux gens qui ne connaissaient pas le lieu. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent, même encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est marrant parce que même des années après la fermeture, il y a encore beaucoup de gens qui vous lient à Tapuscrit. D'ailleurs, on pourra en parler. Parce que peut-être des fois, c'est bon, quoi. C'est une histoire passée. Arrêtez de me dire François Millet de Tapuscrit, quoi. Et donc, il y avait 3 lieux. Il y avait le lieu d'accueil avec tous vos livres et puis les livres que les auteurs auto-édités mettaient en dépôt. Aussi, il y en avait beaucoup. Il y avait une salle très sympa qui était en vitrine où il y avait des livres d'occasion, mais qui pouvait aussi servir de petite salle de spectacle aussi.
Oui.
Et puis derrière, une grande salle où on pouvait avoir une trentaine de personnes.
Oui.
Donc quand vous avez créé le concept, tout de suite vous avez eu l'idée d'en faire aussi un lieu de vie.
Ça ne peut pas être autre chose qu'un lieu de vie pour moi, une librairie. Et puis, alors il y avait aussi ce besoin d'amener les personnes à venir découvrir la librairie. Donc d'où l'idée d'organiser un maximum de manifestations autour du livre.
D'ailleurs, c'est une galerie aussi. C'est une galerie d'art aussi. Il y avait des expos, bien
j'avais,
sûr.
Alors j'avais des vernissages avec des artistes qui venaient exposer. Mais des ateliers d'écriture, des rencontres avec des auteurs, des soirées poésie, les cafés littéraires. Donc énormément d'événements.
Moi, j'ai découvert, Natacha Bellem, j'ai découvert là-bas. Marcel
concert,
Camille,
oui.
J'ai découvert chez vous.
Oui.
Sonia et Paul Kudzi, c'est pareil, je les ai découverts là-bas. Mmh. Voilà, c'est des gens que je suis depuis maintenant 5 ans et que j'ai tous vus partager. Je pense à Doris aussi, à Jean-Marc Talémoni, qui nous a fait une émission sur la maison des chômeurs, maintenant en partenariat avec la radio. Tout ça, c'est des gens que j'ai découverts chez vous. C'était un vrai lieu de vie.
Oui. Et Voilà, c'était une librairie alternative, hein, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein, donc, on trouvait des livres d'occasion et puis tout ce qui venait des auteurs qui s'auto-éditaient et des petites maisons d'édition. Et puis, j'accueillais et je prenais vraiment beaucoup de plaisir, énormément de plaisir à accueillir tous ces auteurs et ces artistes locaux qui avaient et qui ont toujours beaucoup de difficultés à avoir un petit peu de visibilité.
Et puis, on poussait la porte, voilà. On passait devant, on poussait la porte, on discutait un quart d'heure, on prenait un café, et puis voilà. Et c'est là où on retombe sur le système dont on parlait en moment d'émission, c'est que vous n'avez pas 5000 références, donc vous ne pouvez pas être répertorié libraire. Vous n'avez pas ceci, donc vous ne pouvez pas être répertorié auteur. Oui. Vous n'avez pas cela, donc vous ne pouvez pas être répertorié éditeur. Oui. C'est là où le système est terrible, quoi.
Oui.
Non seulement il nous empêche de... Enfin, qu'il y ait des règles, certes, mais c'est des règles qui, même si vous ne voulez rien, vous empêchent. Sans même vous aider... Elle vous empêche.
Exactement.
Parce que bon, qu'on ne nous aide pas à la rigueur, on peut l'entendre.
Oui.
Mais qu'on nous empêche, c'est quand même plus difficile.
C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais.
On va passer sur la fin douloureuse qui est aussi liée au Covid, hein, faut quand même le dire. Oui. Puisqu'il y avait d'autres projets rue Général Vincent qui ont été arrêtés pour cause du Covid. Aujourd'hui, comment se rebâtir sur un... Je ne dirais pas un échec, hein, mais sur une peine, parce que c'est quand même une peine. Enfin, moi, quand on se voyait à ce moment-là, c'était quand même une peine que vous aviez. Comment on se reconstruit? Comment on redémarre? Comment on a envie, justement, de réécrire Kragnos? Est-ce que c'est un pas à pas? Est-ce que c'est bon, allez, c'est fini, je commence autre chose?
Alors oui, c'était une peine. Et en même temps, c'est quelque chose qui me nourrit aujourd'hui, parce que il y a tellement eu de rencontres avec des belles personnes que j'en ai gardé énormément d'amitié.
La nôtre.
Aujourd'hui, la nôtre, voilà, et d'autres personnes hein, que je continue de côtoyer, de rencontrer. Donc, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, oui, il y a une grande nostalgie, une forme de déception.
Mais une richesse.
Mais il en reste aujourd'hui beaucoup de richesse, oui. Donc, en ce sens, c'est pas un échec.
Bah, superbe, c'est des beaux mots. On va écouter on va passer à la première pause musicale que vous nous avez proposée, c'est Hotel California. C'était quoi Hotel California? Eagles? Non, c'est pas Eagles. Si, c'est Eagles. Ah, c'est Eagles, voilà. Hotel California. Et j'en profite pour remercier Will qui est en technique aujourd'hui. À tout de suite.
Thank you. beast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the knife man, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can't.
Vous êtes toujours sur Radio FM Plus avec Will à la technique et en compagnie, William peut-être, il a marre à le bol peut-être, non Will il aime bien, ça va, avec Will à la technique et en compagnie de François Millet qui vient nous parler de Craignos fait son spectacle. Et après avoir parlé de vous, après avoir parlé de tapuscrit, eh bien parlons du livre. Et peut-être déjà dire que c'est pas Craignos, mais c'est Craignos avec un titre entier qui fait son spectacle, donc c'est un spectacle. Est-ce que dès le début, vous l'avez conçu comme un spectacle ? Est-ce que vous saviez que vous étiez en train d'écrire une pièce de théâtre ?
Alors, quand j'ai commencé à rassembler les textes qui constituaient Craignos, oui, je savais que je faisais ça. Hein. Par contre, c'est un ensemble de textes que j'ai écrits, pas forcément dans l'ordre dans lequel ils se présentent dans le livret, qui étaient des poèmes pour certains, des sketchs pour d'autres. Et puis un jour m'est venue cette idée de les rassembler et d'en faire quelque chose de logique dans leur chronologie. Et ça fait Craignos.
Ouais. Et parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que Craignos, c'est une pièce de théâtre hein, qui pourrait tout à fait joué par n'importe quelle troupe de théâtre. C'est pas François Millet, c'est un personnage Craignos avec un autre personnage Laure. D'ailleurs, il y a d'autres personnages, hein, médecin. Enfin bon, les deux principaux protagonistes, c'est Craignos et il n'a jamais d'autre prénom d'ailleurs. Hein, c'est toujours Craignos.
Oui.
Et Laure pourrait vraiment être monté par n'importe quelle troupe de comédiens.
N'importe quel comédien peut s'approprier le texte et puis faire sa mise en scène et oui, sans aucun problème.
Ça pourrait faire penser à... Je sais que là, ça ne va pas me revenir. Si, c'est Raymond Queneau, les exercices de style. Alors, Raymond Queneau a écrit comme ça des exercices de style. C'est la même histoire qui est racontée de 20 ou 30 ou 40 façons différentes. C'est un mec qui rentre dans un autobus avec un grand chapeau et qui fait... Bon, c'est pareil, hein, vous qui aimez l'absurde, François, ça devrait vous plaire. Et c'est différentes histoires et c'est toujours deux protagonistes. Là, deux comédiens peuvent tout à fait travailler dessus. C'est pas forcément en rapport à François Millet.
Ah, bien sûr, tout à fait. Oui.
Et moi, je trouvais ça important de commencer par lire le préambule. Donc, je vais me permettre de le lire. Après, je vous laisserai dire des textes parce qu'il y en a que j'aimerais bien entendre de votre voix. Donc, qui explique ce qu'on va trouver. Donc, Craignos est un poète bedonnant à la calvitie avancée. Rongé par la solitude et un amour qu'il tarde à trouver, il déclame maladroitement des poèmes et des textes qui sont parfois humoristiques, mais aussi trash. Il est accompagné de Laure, son amie d'enfance et confidente, auprès de laquelle il cherche conseil. Il souffre également par moments de troubles psychiatriques. Craignos et Laure ont pour habitude de se retrouver informellement dans le jardin public du village et de discuter assis sur un banc. Voilà, ça c'est la situation. Donc, pour nos amis jeunes comédiens, un banc.
Oui.
Accessoire de mise en scène, un banc. Et puis, il y a la scène 1. Alors, je vais me permettre de lire la didascalie et de début et de fin et de vous laisser dire le texte parce qu'il est profond, ce texte. Donc, Crénio est seul dans le jardin public. Il termine l'écriture de sa dernière poésie. Il a un gros stylo à la main et une bouteille d'alcool vide à côté de lui.
Ni le soleil profond dépourvu de rêves, ni l'ivresse de l'alcool d'une fin de soirée, ni le brouhaha de la foule dans la ville, ni le soleil brûlant de la Méditerranée, ni la grosse caisse du carnaval, ni les fous rires avec les amis, ni le bruit sourd des cascades, ni l'amour pour mon fils, ni la frénésie du travail, ni la force de la poésie, rien. Rien n'arrive à couvrir le cri de mon âme écorchée vive. Rien. Rien n'arrive à couvrir la douleur sourde de mon esprit. Rien. Rien n'arrive à combler le vide de mon cœur esselé. Rien. Rien n'arrive à combler l'abysse que je suis devenu.
Crénios sort une corde de son sac et commence à l'attacher à un arbre pour tenter de se pendre. L'or s'annonce de loin, juste à ce moment-là, et il a tout juste le temps de cacher la corde avant son arrivée. Donc dans cette scène 1, François, on voit le côté triste, enfin...
désespéré.
Désespéré, voilà, j'allais dire désabusé, mais c'est plus fort que désabusé. Désespéré de Crénios. Vous avez mis sans rapprocher, et ça serait un tort, je trouve, hein, de ma part, de coller François Millet et Crénios. Mais cette désespérance et ce texte-là, par exemple, ça c'est un texte où vous nous expliquiez que c'était des textes que vous aviez reliés à maman. C'est un texte que vous aviez écrit avant ou c'était un texte que vous avez écrit pour Crénios?
Non, il a été écrit avant.
Donc dans des moments de désespérance.
Et il a été écrit au moment de tapisserie de la librairie.
Ah. Voilà, c'était bien expliqué avant quand même.
Et je l'avais lu lors d'une soirée poésie, je m'en souviens.
Parce que moi, le Crénios, je l'ai vu une fois chez Étienne Svark à Figueroles, voilà, dans sa galerie. C'était une des premières représentations. Hein. C'était encore, peut-être que ça a évolué depuis, je ne sais pas.
C'était la deuxième.
Ah, c'était la deuxième, oui. Y avait cette scène-là dès le début. Ça a toujours été, dès que vous avez commencé à faire des représentations de Crénios, il y avait cette scène
oui.
qui quand même posait un cadre lourd sur la personnalité de Crénios.
Oui. Oui, c'est volontaire
de faire
rentrer très rapidement les spectateurs dans cette ambiance qui est très lourde.
Et c'est ce qui va donner aussi en plus après, plus de force à la scène 2 et puis à plein de moments dans le livre où il y a une espèce de cascade de jeux de mots. Parce que dans la scène 2 arrive Laure. Qui est Laure ?
Alors, comme c'est écrit au début, c'est son amie d'enfance,
ouais.
hein, mais c'est elle qui est toujours présente. C'est celle qui est toujours présente, qui le sauve, parce que si elle n'était pas arrivée à ce moment précis, je pense qu'il aurait la corde au cou. Hein, donc si elle n'avait pas été présente, et je ne vais pas dévoiler la fin, hein, mais...
Mais il y a le personnage Laure qui est là, qui a l'air souvent... tellement clair par rapport aux profondeurs humaines et compliquées de Crénios. Hein. C'est ça, c'est une espèce de miroir de l'âme de Crénios que vous voulez renvoyer. Et l'utilité d'un personnage, c'est ça aussi, c'est de faire ressortir chez l'autre. C'est elle qui va l'aiguillonner, Crénios, qui va lui faire sortir tous ses traits de caractère.
On peut le penser, oui, oui, à force de patience, hein, avec le temps, par sa gentillesse, par sa présence, par sa simplicité.
Parce qu'elle lui pose des questions simples. Alors ça commence, salut toi, qu'est-ce que tu fais là ? Et pourquoi l'écris-tu ? Elle lui pose des questions simples. Ah bon, tu écris des livres, tu fais... Et lui, par contre, en face, c'est plein de cataclysmes humains, mais c'est aussi là le début de... du jeu de mots. C'est-à-dire que pourquoi l'écris-tu ? Il a bien fallu le faire. Non, il ne tue pas. Le cri libère. C'est-à-dire que chaque réponse que Crénios fait alors, elle est travaillée au niveau littéraire.
Oui. Oui, oui, oui. Après, le personnage, là, il est encore sous le coup de la scène 1. Hein, et là, il a besoin, quelque part, de s'extraire, de prendre de la hauteur, hein, et il le fait avec cet humour un peu noir ou sarcastique, hein, qui permet de s'échapper de ce qu'il a failli vivre, hein, en essayant de se suicider.
Après, quand il lui dit, Cragnos lui dit, il écrit des livres. Ah bon, tu écris des livres ? Ou un autre cri ibérique que j'aborde, que tu adores ? Non, que j'aborde, c'est-à-dire que je n'aime pas. Hein. Ah, c'est l'abordage. Oui, l'abordage, voilà. Alors, évidemment, je vous ai demandé la permission avant d'en parler, mais on ne peut pas lire ce genre de jeu de mots sans penser à Raymond Devos. C'est un maître pour vous dans l'art, justement, du jeu de mots.
Oui. Oui, oui. Alors, j'aime beaucoup Devos en tant qu'humoriste, parce qu'il avait cette capacité de jouer avec les mots et de nous faire rigoler avec les mots, sans faire de mal à qui que ce soit, en fait. Et ça, je l'ai trouvé très très beau chez lui. Puis c'était quelqu'un qui était plein de poésie. C'était beaucoup de poésie chez lui.
Et d'ailleurs, enfin, on peut en parler à ce moment-là, mais vous avez écrit un livre, il y a, en même temps que le libraire, vous avez sorti deux livres en même temps, justement sur des aphorismes, des jeux de mots, des couillonnades que vous dites, qui est paru donc, alors là, encore aux éditions Tapuscrit. Une question de l'expression « il faut voser la lune ». Est-ce que c'est d'Oscar Wilde ou de Rocco Siffredi, voilà. Ça, on en parlera de votre côté coquin. On ne s'en lasse pas ou on ne s'en lasse pas. Et s'enlacer, sans s'enlacer, quel bonheur. Elle est belle, celle-là, quand même. C'est quand même un exercice que vous avez toujours aimé.
Oui. Mais en fait, ça, c'est ma maladie mentale. Hein. C'est mon esprit qui est déformé et qui... comme je dis dans Cragnos, je souffre de lapsus auditif. Hein, et c'est plus fort que moi quand j'entends certains mots, je les comprends autrement.
Il faut une rapidité d'esprit quand même. Ça vous vient assez vite ?
C'est instantané.
Ouais.
Donc ça ne me demande pas d'effort.
Ah, mais c'est brillant en tout cas. Alors il y a une autre référence dedans, mais ce n'est pas vraiment une référence, mais c'est un jeu de mots aussi. Hein. Évidemment, tout le monde connaît Hannibal Lecter, mais vous, il y a un personnage que vous créez. Enfin, quand on tape votre nom sur Internet, on tombe tout de suite là-dessus. C'est le cannibal lecteur. Donc l'homme qui dévore le livre plus vite que son ombre. C'est votre cas aussi, François ? Vous êtes un gros lecteur, comme ça, vous dévorez les livres ?
Alors, je lis très très vite. Mm-hmm. Après, ces derniers mois ou dernières années, non, je lis beaucoup moins. Mais quand je lis un livre, oui.
Et vous écrivez vite aussi ?
Oui, ça fuse. Oui, tout à fait. L'ensemble des textes qui constituent Cragnos, c'est des textes que j'ai écrits dans leur premier jet en 20 minutes pour certains. Après, oui, il y a un travail après de mise en forme, de changer des mots, de changer... Mais le premier jet, il est toujours très, très rapide.
Après, il y a d'autres livres. Hein. Il y a le journal de l'anarchiste désabusé aussi, qui a un petit peu de temps maintenant, qui doit avoir 5-6 ans.
Plus que ça.
Plus que ça. Et le mot de la... Non, comment c'est l'autre ? Celui avec...
Ah, le premier,
celui avec Nathalie Fuster.
C'était le mot de la fin.
Le mot de la fin, voilà. Mmh. Donc, il n'y a pas que les livres dont on a parlé, hein. Vous aimez cette écriture-là, d'ailleurs, il y a une chose que vous mettiez en avant en tant qu'éditeur, c'était les nouvelles. Vous aimez comme ça les textes courts, très forts ?
Oui, oui, oui. Ben, c'est ce que j'écris et ce que j'ai lu aussi quand j'étais gamin. Mmh. Et puis avec les nouvelles de Dino Buzzati, qui était un peu fantastique toujours, et ça j'adore.
Quand on parcourt le livre, quand on avance dans le livre, on s'aperçoit que les scènes, donc il y a une vingtaine de scènes, hein, je crois que la dernière, peut-être plus, une quinzaine. Le livre est en deux, enfin la pièce de théâtre est un peu en deux parties. Il y a une première partie donc d'échange où justement il y a une espèce d'apprivoisement, je ne sais pas comment on dit, oui, d'apprivoisement, où Laure et Cragnos se rencontrent, échangent, et c'est toujours Laure qui l'interpelle. Alors quand je vous ai dit ça, vous me dites, ah oui, tiens, je n'avais pas fait gaffe. La discussion, c'est toujours Laure qui la lance, en disant, tiens, salut, toi, toujours là, qu'est-ce que tu fais ? Et après, on se parle. On a souvent parlé des femmes, tous les deux. C'est souvent les femmes qui mènent la danse dans votre vie ?
Je sais pas. En tout cas, moi, je conçois pas la vie, enfin, de couple de façon parfaitement équilibrée, hein, dans les rapports hommes-femmes. Après, dans Cragnos, oui, effectivement. En fait, ils se connaissent depuis l'enfance, et puis quelque part, elle a un amour pour lui, sauf que il a jamais été déclaré. Donc c'est pour ça qu'elle va régulièrement vers lui, hein, parce qu'elle a une profonde affection pour ce personnage qui est attachant, hein, et qui est un peu, qui est hors des clous, qui est hors du monde, voilà, qui est un poète qui vit en dehors de ce monde, quoi.
À chaque fois qu'on a discuté de femmes, enfin de la féminité ou des femmes en façon générale, il y a toujours un propos très tendre. Alors, vous n'êtes pas le seul homme à être tendre, mais je trouve un regard sur les femmes très amoureux. Bien sûr, sur votre femme, hein, François, mais bon, d'une façon générale, on sent que vous aimez l'univers féminin, que c'est quelque chose que vous aimez bien.
Oui, c'est une réalité. Alors, ça a été aussi, au départ, une réalité d'amitié quand j'étais au lycée. J'allais plus vers les femmes parce qu'elles étaient plus intellectuelles, on va dire, que les adolescents ne pouvaient l'être. Donc ça m'intéressait. Bon, je pouvais avoir des discussions de fond avec des femmes que je n'avais pas avec des hommes. Ça a été le cas aussi après professionnellement, où j'ai travaillé dans des milieux, la formation professionnelle avec beaucoup de femmes, et le hasard faisait que souvent j'étais dirigé par, j'avais pour directrice des femmes, et ça m'a jamais dérangé. Voilà, donc c'était quelque chose pour moi de naturel.
C'est vrai que Tapuscrit, c'était un lieu, il y avait beaucoup de femmes qui passaient, des artistes, hein, bien sûr. Il y a votre femme, mais autour de vous, je ne sais pas, des belles personnalités comme Giget, comme Mathilde Long, comme Nathalie Fuster, j'en citerai. Et c'est vrai, comme vous êtes très peu viriliste, vous-même, dans vos propos, les mecs qui sont là-bas ne le sont pas beaucoup non plus.
Oui, c'est vrai.
et donc, c'était un lieu très apaisant pour les femmes. C'était un lieu où on ne se sentait pas du tout en danger en tant que femme.
Oui, oui. Merci.
Bah oui.
Je n'avais pas vu la chose.
C'est rare. Vous savez, pour les femmes, l'univers n'est pas toujours tendre.
Oui.
Et c'est vrai que d'être dans un lieu où on peut avoir des rapports avec des mecs, et Dieu sait qu'il y a des mecs qui sont, je pense à Patrick Charles par exemple, qui sont quand même très mecs, hein, je veux dire, dans leurs propos, etc. Mais dans le rapport aux femmes, il n'y a jamais eu de virilisme, ni de Julien Brun, ni de tous vos proches, ni de Christian Cosbert, enfin tous les gens qui faisaient l'univers de Tapuscrit. Je n'ai jamais vu des propos virilistes, et c'est très apaisant. Parce qu'en effet, ce qu'on reproche en ce moment aux gens, hein, c'est c'est les propos virilistes qui sont très agressifs.
C'est juste.
Voilà, donc je voulais le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est fort. À un moment, il va y avoir une... Bon, le livre progresse, et puis vous faites intervenir une doctoresse. Quel était le besoin à un moment de faire intervenir d'autres personnages? Est-ce que c'est parce que c'était des textes que vous aviez écrits, que vous aviez envie de mettre en valeur à ce moment-là, ou rien n'a été réécrit par la suite?
Si, un petit peu quand même, malgré tout. En fait, il y a quelque chose que je me suis aperçu sur le tard, c'est que souvent dans les textes que j'ai écrits, et dans le libraire aussi, je parle des maladies mentales. J'ai beaucoup de textes comme ça. Et Craignos n'échappe pas à la règle. Hein. Il souffre de dépression. Il entend des voix. Il a un sentiment de persécution. Il croit qu'il est suivi. Donc à certains moments, effectivement, ses amis le persuadent d'aller voir un médecin. Alors la doctoresse, c'est avant.
Après, il y a le psy. Hein.
La doctoresse, en fait, il va la voir parce qu'il est en manque d'inspiration. Et bon, il y a un quiproquo dans la scène.
On va pas tout dire parce qu'il y a tellement de choses formidables à découvrir. Et après, donc, il y a la partie avec le psychiatre. Mais il y a une autre chose, parce que le temps avance, et dont j'aimerais vraiment parler avant de faire notre deuxième pause musicale. On ira vite à la fin, mais ça, c'est important, c'est la poésie. Parce que la poésie, vous êtes poète. Hein.
Alors, je ne me considère pas du tout comme un poète.
Ah bon, non, important, vraiment pas. Quand même.
Ouais.
La poésie, elle sous-tend le livre tout le temps.
Il y en a.
Donc, un par les trois poèmes de la fin, qui sont des poèmes coquins, avec tout un travail sur justement comment être coquin sans être vulgaire, hein, voilà, comment utiliser des mots forts et forts, et érotiques, sans être vulgaire. Mais il y a toute cette partie, vous en parliez des haïkus. Alors moi, je vous ai demandé, est-ce que les courts textes qui sont dedans sont des haïkus, vous m'avez dit, bah oui, des fois non. Mais j'avais envie de le lire, ce très beau texte de la page 27.
En ligne de mire, magnifique voilier à l'horizon. Majestueuse, la goélette et sa proue. Pudique, son voile blanc dans le vent. À l'abordage de la belle poule, je montrais bien. Rapide, elle montre sa poupe pour tout butin.
Aussi, il y a des lectures différentes.
Hein. Oui.
Et je trouve ce texte très beau et de sens et de phrase, je sais pas comment, de phrasé tout simplement. Voilà, c'est très beau. C'est quand même important la poésie dans votre vie. Vous me dites, vous vous considérez pas comme poète, mais
parce que c'est quelque chose que j'écris moins facilement que les nouvelles hein, ou que les petites scènes humoristiques. Et c'est pour ça que je me considère pas comme un poète.
Les poèmes érotiques de la fin, enfin oui, érotiques, coquins, c'est difficile à écrire, c'est un art difficile justement d'écrire de la poésie coquine. Alors j'aime pas trop le terme coquin, pour moi c'est un côté 18e siècle, mais érotique on peut dire quand même, hein, c'est difficile à écrire en gardant un ton juste.
Alors difficile à écrire, non, parce que quand me vient l'écriture, c'est tellement fulgurant. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai écrit, hein, enfin chaque poésie en un quart d'heure, 20 minutes. Bon, après il y a du travail hein, sur les mots, sur le rythme, etc. Hein, mais le premier jet qui arrive est tellement rapide que non, c'est pas compliqué. Hein. Après oui, il y a un travail après pour sur le rythme, sur ce que j'appelle la musicalité hein, des phrases.
La dernière scène, on en parle juste après la deuxième pause musicale qu'on va faire peut-être un peu courte, qui est Atom Heart Mother de Pink Floyd.
Oui.
C'est ça. Mais on va faire un tout petit son. Merci Yann, puisqu'on a perdu Will pour retrouver Yann, c'est agréable aussi. Et on écoutait juste l'entrée donc de Atom Heart Mother. C'est superbe l'entrée, hein, ça, je sais pas, je me rappelle pas de la suite, j'irai goûter tranquille. François Millet, on va finir l'émission en parlant de plusieurs choses. Déjà de la fin du livre. La dernière scène, c'est comme un bouquet. C'est un bouquet que vous offrez à Laure, on va pas en dire plus que ça. Sauf que bon, ça se termine bien.
Oui, ça se termine bien.
Voilà. On peut peut-être dire quand même la première, on peut peut-être nous lire le premier, page 52, juste le premier. Ouais, les deux premiers, allez, pour entendre votre jolie voix.
Moi qui le croyais oublié, sentiment amoureux, ça me pendait au nez. 9 ans de jachère, et puis pouf, complètement ouf, t'avoir dans le nez.
Voilà. Donc on laissera nos auditeurs découvrir la fin du livre et ce qui se passe. Envie maintenant de le produire.
Alors, jusqu'ici, je l'ai joué 4 fois à la demande. Et mon rêve serait effectivement un jour de faire l'effort de l'apprendre par cœur entièrement, parce que c'est un gros travail. Et puis de le mettre en scène, hein, pour pouvoir le jouer au moins une fois sur une véritable scène.
Parce qu'il y a eu, moi je l'ai vu donc chez Spark, chez Étienne. Après, vous l'avez fait à la Gazette avec Christian d'ailleurs. Oui. Théâtre Tabar, mais dans la salle d'accueil, pas dans le théâtre.
Oui.
Et puis
chez Jiget la première
chez
fois.
Jiget, ouais. Oui. C'est chez Jiget que vous l'avez.
C'est la première, oui, c'était chez elle.
Et de vraiment maintenant de passer sur une vraie scène théâtralisée avec un jeu de lumière et tout, ça vous plairait ?
Oui, ne serait-ce qu'une seule fois, pour le plaisir de le faire, c'est une expérience qui doit être formidable, donc ça fait vraiment envie.
Quand vous le lisez, vous revenez toujours au texte ou est-ce qu'il y a des moments où quand même ça commence à venir tout seul le texte ?
Alors il y a des parties que je commence à connaître par cœur et puis je suis capable de digression par moment s'il faut, parce que j'ai des choses qui me passent par la tête.
Ça vous arrive de partir dans l'impro ?
Plus le temps passe, oui.
Et comment elle réagit alors ? Parce que bon, en face, c'est pas toujours facile.
obligé de faire avec.
Faut peut-être quand même dire qui joue Laure sur scène, quelques mots, parce que je l'avais invitée, elle travaille aujourd'hui, il faut quand même en parler.
C'est ma compagne,
qui s'appelle Laurence, voilà. et qui vraiment était la bienvenue aujourd'hui pour partager cette expérience de micro. Nous sommes le 17 et le 18, nous pourrons retrouver les auditeurs au Théâtre Tabar où Ubicart fait sa rentrée annuelle avec des galettes. Alors c'est des livres et des galettes, je crois, le titre exact de... des livres et des galettes, c'est à 19h au Théâtre Tabar. Vous allez sur le site du Bicard, vous aurez tous les renseignements. Vous pourrez rencontrer François, qui je crois que sera là.
Je devrais être présent, voilà. Oui.
Il vous proposera toutes les nouvelles sorties, parce qu'en ce moment, ça édite beaucoup à Ubicart. Vous pourrez acheter Craignos, parce que franchement, vous n'allez pas vous ruiner, parce que c'est que 7€ ce livre. Hein. Donc vraiment, c'est un des travaux... Enfin, sur quoi travaille... Jean-Claude Rivière, qui est le patron du Bicart.
Il fait des petits formats et des petits prix, voilà. Et c'est très très bien. Oui,
ils
c'est
ont
très bonne
avec
idée.
Virginie Guidé, la peintre qui illustre beaucoup des livres. Là, c'est pas Virginie, c'est...
Non, c'est une illustration de Quincy,
voilà.
Un jeune artiste montpelliérain qui a beaucoup de talent.
Quincy, qu'on a reçu un jour en matinale, et ben il y avait Will qui est revenu de derrière. Et alors, c'était épique, la matinale avec Quincy, parce qu'il était avec sa compagne, Clotilde, et leur petite fille qui était toute petite et qui, pendant toute la matinale, nous a fait des areux, des ouin-ouin et des ouin-ouin. Et avec William, on ne savait pas comment s'en sortir pour maîtriser la petite fille. Je parlais de Quincy. Mais bon, c'est vrai que c'est un couple adorable et très créatif aussi. Et donc, c'est lui qui vous a tiré le portrait.
Oui, mais c'était lors du salon Figrol d'ailleurs.
Eh ben voilà. C'est un très joli livre dans une jolie collection. Allez donc le 18 au Théâtre Tabar, qui est un nouveau lieu avec une nouvelle équipe. Et j'en profite pour saluer cette nouvelle équipe, dont Anaïs. Et donc, pour se quitter, j'ai envie encore de citer Marc Ely, qui dit de vous, François Millet n'est pas craignos. Non, il n'est pas bedonnant, il n'est pas atteint de calvitie, il n'est pas accro aux femmes, et pourtant. Donc ce petit livre rafraîchissant, à force de jouer avec les mots, ce sont les mots qui s'éloignent. Tant mieux. Donc petit livre, Ubicart, 7€, rendez-vous demain soir au Théâtre Tabar. Merci François d'avoir
Merci
partagé
Nathalie.
Ce moment.
Merci beaucoup.
Merci, à la semaine prochaine.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.